Nous allons parler de médecine traditionnelle chinoise, ou plus exactement de shiatsu. Donc c'est peut-être pas chinois, c'est certainement japonais, mais en tout cas il y a un fond qui est commun. Donc et pour ça on a la chance d'accueillir Camille Ducoteau qui est à côté de moi.
Bonsoir
Camille. Donc Camille, je te présente et puis tu feras les petits réglages si besoin. Donc tu as fait de la biologie, tu as un cursus, mm-hmm. Tu as fait de la biologie. Tu t'es initié à pas mal à beaucoup de petites choses, surtout donc aux médecines complémentaires, dites alternatives, la réflexologie plantaire, les fleurs du bac, l'éthiomédecine et le shiatsu. Donc c'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc merci déjà d'être là. Et puis c'est, faut pas oublier non plus que c'est toi qui as proposé de faire une émission sur ce sujet. Et on l'a pris avec grand plaisir parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on avait envie de parler de tout ça et surtout de tout ce qui est alternatif. Parce que on nous propose des médecines conventionnelles, des médecines et c'est bien d'avoir d'autres médecines, d'autres petites choses pour pouvoir justement se soigner tout au long de notre vie. On a aussi au micro, on a Edir qui veut bien nous accompagner. C'est pas dit qu'il intervienne, en tout cas c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui lui plaît beaucoup. Et merci d'être là aussi, Edir. Tu prendras la parole ou pas, à toi de voir. On a Benjamin aussi qui est à ma droite, voilà, qui s'intéresse au shiatsu, mais qui s'y intéresse donc d'un œil extérieur pour savoir comment il va pouvoir mettre du shiatsu dans sa vie.
Et tu sais qu'il en faut.
Voilà. Et donc Anna qui est restée là et qui me tape depuis tout à l'heure un petit peu du coude en me disant alors c'est quoi les secrets, les recettes pour avoir une vie longue et heureuse. Bon, on va voir ça. Donc voilà, merci pour tout ça. Camille, tu devais venir, donc vous deviez être deux ce soir.
Oui.
Il y avait Jean Smith aussi qui devait être là. Donc lui, il pratique aussi du shiatsu. Dis-nous en plus sur lui. Allez.
Lui, c'est le fondateur de l'Institut Shendao qui propose des formations en shiatsu. Okay. Et il est prof d'arts martiaux depuis plus de 35 ans. Avec 40 ans de pratique de karaté, et formé en shiatsu en 2002 et formateur depuis 2005. Okay. Avec un déménagement il y a 2 ans en région toulousaine, donc une école qui était un peu itinérante en fonction des salles disponibles sur Toulouse, et là on a la chance d'acheter un lieu, un terrain où il y a une salle, un hangar qu'on va transformer en salle de formation. C'est partiellement terminé, on a déjà une salle qui est finie et dans laquelle on fait des ateliers.
Ok, et donc là c'est un lieu que vous voulez faire vivre avec justement des activités multiples, peut-être vous avez envie qu'il y ait de la vie là-dedans, en tout cas,
tout à fait.
Dans ce lieu.
Déjà d'avoir notre propre lieu pour pouvoir faire nos formations quand on le veut et qu'elles soient disponibles tout le temps, et effectivement faire intervenir d'autres personnes à terme.
Okay. Et, donc là vous avez des salles de soins? Vous avez des ateliers pour faire des formations, des ateliers, voilà.
Pour faire une salle de 70 mètres carrés pour des formations, okay. Et 2 salles de soins et un extérieur où on pourra faire aussi des animations.
Très bien.
C'est important l'extérieur.
Ouais. Ça se passe à Mozac.
Oui.
Donc 31 410, c'est à peu près pour situer à 15 km au sud de Muret.
C'est pas dans le centre du village, qui est un village très mignon d'ailleurs, avec une activité.
Tu veux pas te fâcher avec les gens de la commune,
pas
toi.
Encore. et par contre, on est en extérieur, on est à 2 km sur une crête qui domine, avec la vue sur les Pyrénées, et les fruitiers qui sont déjà implantés, donc on est très content.
Il y a déjà le cadre. Ok. Bon, ok, ça marche.
Très important le cadre.
Ouais. Et donc Jean donc lui c'est il a été formé, mais il forme aussi.
Voilà, il est formateur, donc c'est lui qui forme pour ceux qui veulent devenir professionnels en shiatsu.
Très bien.
Et donc il y a un cursus qui se passe en 3 phases. Il y a une initiation 1, une initiation 2. Donc sur 4 week-ends, puis 3 week-ends, et qui permet ensuite d'accéder à la formation praticien et de s'installer en tant que praticien shiatsu, qui dure 2 à 3 ans, puisqu'après il faut rendre un mémoire. Donc ça s'étale entre 2 et 3 ans, la formation complète.
Et une petite question à toi Camille, et peut-être pourquoi pas à Edir, pourquoi vous êtes intéressé à des disciplines qui font partie d'un autre patrimoine que le nôtre, donc le patrimoine occidental. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Orient, au pays du soleil levant, qu'il y a de plus que chez nous ? Je veux dire, pourquoi être allé voir là-bas ? Et ça, c'est quelque chose qui me titille, j'aimerais bien savoir.
Donc, dans mon parcours, j'ai étudié pas mal de techniques. Certes, la réflexologie plantaire est déjà une technique globale, hein, qui est holistique, mmh. mais qui ne reflétait pas la globalité qu'on retrouve dans le Tao et dans la médecine traditionnelle chinoise de cet ensemble et de ces lois fondamentales qui régissent tout individu, tout être, toute chose.
Oui. Et tout à fait, des lois fondamentales qui, mm-hmm. qui sembleraient que nous, occidentaux, on n'ait pas pris en considération.
On les a oubliés peut-être, ouais. certains anciens médecins de l'époque.
Parce que j'ai cru voir que justement, dans l'Antiquité.
Avicenne et toute cette époque-là, effectivement, ils avaient une vision globale qui s'est perdue.
Complètement.
Donc là, on a une médecine aujourd'hui qui recherche le détail, la compréhension fine.
Et
qui oublie la globalité, qui oublie de s'extraire. Donc ils vont regarder un organe. Détaché de l'humain et pouvoir faire une dissection, mais sans prendre en compte toute l'énergétique qu'il y a autour et qui fait partie d'une globalité.
Okay. Et ça s'enferme dans des systèmes et en fait ça prend pas en compte tous les liens qu'il y a autour.
Tout à fait. Et c'est vrai que les Chinois, ce qu'ils nomment les trois trésors, San Bao, c'est terre, homme, ciel, c'est le point de départ. Il faut qu'il y ait une terre. Donc là, sous nos pieds,
l'homme n'est pas seul, l'homme et la femme ne sont pas seuls.
Mais c'est surtout qu'il n'existe que s'il y a terre et ciel. Une terre toute seule, elle est vierge, elle est noire, elle est elle ne peut pas créer la vie. Un ciel qui émet de la lumière et tout ce qu'il y a dans les astres, tout ce qui est émis par le ciel n'existe ou ne révèle quelque chose que s'il y a une terre. Donc, sans le ciel et la terre, il n'y a pas de vie. Et donc, c'est ce qu'ils appellent les 10 000 êtres, entre ciel et terre, les 10 000 êtres, dont nous, les humains. Mais dans les 10 000 êtres, il y a aussi la pierre, la mousse, le cheval. Et...
Pour que les auditeurs comprennent bien, on parle là de médecine, une compréhension de notre mm-hmm. environnement, mais que la médecine traditionnelle chinoise a pris en compte, donc, lorsqu'elle a expérimenté, qu'elle a, etc. Et donc, il semblerait qu'il y ait. Ça soit aussi un point de vue, la médecine traditionnelle chinoise et la manière de vivre au quotidien. Il y a aussi un courant de pensée, il y a aussi une philosophie de vie. Il y a c'est l'homme avec son environnement et il ne peut pas, il n'est pas coupé de son environnement.
Tout
et donc dans que ça soit dans sa philosophie, son courant de pensée, donc ce regard au monde qui est différent. Il y a donc, si je plus ou moins cerner, c'est que il peut y avoir donc des lois universelles qu'il a avec le temps pu observer, qu'il a pu regarder, qu'il a pu mettre en relation. Et donc une qui me vient, puis pareil, ça découle aussi, contrairement à nous occidentaux, ça découle aussi du taoïsme, du confucianisme, et donc avec justement ce courant de pensée, cette philosophie. Et donc la médecine traditionnelle chinoise, c'est pas uniquement une médecine où on analyse un élément et puis on va creuser un petit peu, comme tout à l'heure on me parlait de la molécule, de l'atome, du machin, etc. Mais justement, on fait le rapport avec notre environnement. Et moi qui me situe là actuellement à cette place-là, ça sera peut-être différent dans une heure à 10 mètres. C'est-à-dire, je serai une autre personne.
Même dans une seconde.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est que c'est une médecine dynamique.
C'est
aussi.
Ça, dynamique, c'est le terme.
Ouais. Okay.
Avec ce qu'ils appellent le chi, hein, l'énergie, qui est un mouvement permanent et qui a deux polarités, yin et yang, qui sont indissociables et qui vont définir toute chose.
Le tout et son contraire, et ces contraires-là sont faits d'exception, c'est ça ?
Oui, mais l'un n'existant pas sans l'autre.
Voilà.
Hein, il ne faut pas oublier l'interdépendance. Hein, on a souvent tendance à les dissocier, à les opposer, ces deux polarités, alors que, effectivement, nous, par exemple.
Parce que la science fait souvent, d'ailleurs.
Oui, mais après ça c'est le système de dualité et de mettre.
C'est justement c'est alors peut-être donc, on peut parler du yin et du yang si ça vous parle. et dire qu'il est timide qui a envie de parler mais bon. parce que le yin et le yang vu par un occidental ça peut être un peu différent que un oriental qui
L'oriental il est né avec ces notions là qui sont déjà dans son
sa culture.
Ouais, nous c'est des notions qu'on découvre qu'il va falloir définir. On a besoin de les définir pour les comprendre, et comme elles sont en mouvance et en permanence en changement, c'est des notions qu'on ne peut pas accrocher.
Parce que moi, quand on m'a présenté le yin et le yang il y a quelques années, c'était pour me dire, il y a d'un côté c'est blanc, d'un côté c'est noir, c'est deux opposés, il y a une espèce de dualité entre ces deux couleurs, de force, etc. Et ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que d'un côté, on les opposait. Oui. Est-ce que c'est ça vraiment? D'un côté on est bon, on est mauvais, un peu comme nous, notre manière de penser?
Vu qu'on est dans un mouvement circulaire, cyclique,
c'est ça.
Où il va y avoir une alternance, ce qui est yang va forcément devenir yin.
Allons bon.
Et lorsque c'est yin, ça ne peut que redevenir yang. Donc on est dans un mouvement permanent qui fait que l'un ne va jamais sans l'autre. Et
est-ce qu'il y a des nuances entre les deux, c'est-à-dire
il peut y avoir des vides et des pleins,
oui.
Et des excès. Alors ça, c'est si la pathologie, il peut y avoir un excès ou un manque. Okay. Il y a un équilibre à trouver. Donc c'est celui qu'on va rechercher dans nos pratiques, hein, en faisant par exemple du shiatsu, pour que l'équilibre soit ce mouvement de montée et de descente de l'énergie, si on reprend la terre et le ciel, soit en permanence équilibré et fluide, et qu'il n'y ait pas de blocage de cette énergie.
Est-ce que l'aspect du coup circulaire fait référence à l'aspect cyclique aussi, justement?
Alors l'aspect circulaire, on peut effectivement ce qu'on appelle souvent les cinq éléments, mais c'est plutôt cinq mouvements, hein, c'est plutôt des modalités, on les a traduits par cinq éléments, mais c'est plutôt des mouvements, décrivent cette alternance permanente des choses. Donc on peut y mettre dans ce qu'on appelle souvent le Tao, hein, on peut y mettre les saisons, avec l'hiver tout en bas, qui correspond au nord aussi, et avec le printemps, donc qui va être aussi notre enfance, si on le met au niveau d'une vie humaine. Tout au sud, on va avoir l'été, et on va avoir nos 40 ans, par exemple. Et à l'automne, on va avoir la récolte des fruits, on va avoir la lumière qui baisse l'hiver, on va avoir notre début du vieillissement, et puis jusqu'à revenir à l'hiver et le retour à soi. L'hiver, on n'a pas envie de sortir de chez soi, on est plus en intériorité. Donc tout ce qui est yin, le yin va être l'hiver.
Ok.
Mais dans l'hiver, il y a déjà la graine sous terre, donc le début du yang qui va pouvoir.
La préparation du renouveau. Ouais.
C'est ce petit point qu'il y a dans le Tao, hein, qui annonce que bientôt il pourra y avoir de nouveau le printemps et l'expression. Et donc on peut y mettre notre vie humaine, on peut y mettre une journée. C'est le matin, donc il y a minuit. Minuit, ça va être le plus yin, hein, donc c'est le cœur de la nuit. Et ensuite, on va avoir le matin, le changement, l'arrivée du jour, le midi, le soleil au zénith. Et ensuite, la fin de journée de nouveau la nuit. Donc là, on va pouvoir mettre dans ce cycle d'alternance jour, nuit, une vie de l'être humain, on va pouvoir mettre aussi le fonctionnement des organes dans l'être humain. Ce qui se passe à l'extérieur, dans la nature.
Sachant que chaque organe a son apogée de fonctionnement aussi,
également.
Dans la journée.
Mais il a aussi sa tonalité, c'est-à-dire par exemple l'énergie des reins, c'est une énergie de stockage, de thésaurisation, donc de c'est notre énergie profonde, la plus profonde, et qui va être donc la plus yin. Et ensuite le foie par exemple, ça va être l'énergie du printemps, donc c'est celle qui va mettre en mouvement, qui va être dans le comme une plante, hein. C'est d'ailleurs l'élément associé au printemps, c'est le bois. C'est le bois qui se dresse, et le foie, il a cette tonalité-là. Donc on va aussi pouvoir avoir les organes dans ce mouvement. Et par exemple, le cœur, il est tout en haut, il est au zénith, c'est l'empereur, c'est celui qui guide et qui... Donc on a notre axe cœur-rein, qui est l'axe principal chez l'être humain, et avec, par exemple, on pourrait dire le foie qui fait monter l'énergie, et le poumon qui va faire descendre l'énergie, ça c'est pour être très rapide, hein. on pourrait détailler, mais...
Ouais. Et donc, si je t'entends bien, c'est que... En fait, il n'y a pas de hiérarchie entre le yin et le yang. L'un n'est pas supérieur ou inférieur à l'autre.
Non, sûrement pas.
Et l'important, donc, c'est leur relation.
L'interrelation.
Oui, parce que l'un n'existe pas sans l'autre.
Tout à fait.
Puis, c'est ce cycle. Enfin, c'est...
Être en santé, c'est préserver ce cycle.
Ah, ok.
Et ouais. ce mouvement. Donc, par exemple, quelqu'un, si on voudrait défier les lois de la nature, on déciderait de ne pas dormir. Ben, vous voyez combien de temps vous vivez sans dormir.
Benjamin a essayé. Hein.
Donc, on est.
Un mois et demi. Hein, vous entendez ce que ça donne là aujourd'hui. Hein, c'est...
Voilà, donc on ne peut pas déroger aux lois. Aux lois universelles qui régissent la vie. Et effectivement, si on y déroge ou si on s'alimente mal, si on dort mal, il y a plein de raisons qui vont déséquilibrer cet équilibre et qui vont pouvoir créer des troubles de santé, par exemple.
Ok. Donc ça, oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, après on peut détailler encore, hein, mais
oui, je sais pas. Si... Et dire, tu voulais rajouter quelque chose?
Ou s'il y a des questions?
Je sais pas.
Comme l'homme et la femme, le yin et le yang, c'est un peu ces polarités-là. C'est l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme.
Oui, et d'ailleurs, on dit souvent le yin soutient le yang qui le protège. Donc c'est vrai que la femme, ça va être. C'est elle qui a la matrice, c'est la terre, c'est celle qui va pouvoir. Avoir la vie en elle, mais elle a besoin de la protection et elle a besoin du masculin aussi pour protéger. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On est dans un équilibre complémentaire.
Dans certaines phases, parce que ça peut être aussi l'inverse, quoi.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Il peut y avoir un homme qui a beaucoup de yin. Mm-hmm. Ça n'empêche que suivant ce qu'on regarde, il sera toujours plus yang qu'une femme. Mm-hmm. Parce que c'est toujours la position. C'est toujours Il faut toujours regarder. On peut lire un texte et lire son contraire dans un autre livre, parce que ça dépend comment l'auteur se positionne et ce qu'il est en train d'observer. Une même montagne, vous avez une montagne, un versant ensoleillé, donc la Drée. C'est d'ailleurs dans les idéogrammes du yin et du yang, c'est ce qui est dans le chinois ancien, c'est vraiment ça qui est décrit. Hein. Il y a une colline avec un soleil pour décrire le yang. Et pour le yin, c'est le versant avec les nuages. Donc il y a le versant nord, Lubac. Okay. Et effectivement, si vous vous placez, vous regardez la même colline, mais si vous êtes du côté ensoleillé, vous allez dire c'est yang. Et celui qui est de l'autre côté, il va dire mais non, elle est yin, cette colline. Mais ni l'un ni l'autre n'ont raison. Elle est yin et yang. Ça dépend du regard qu'on va porter sur les choses. Okay. Donc toujours faire très attention parce que c'est toujours en mouvement. On ne peut pas figer les choses en médecine chinoise. C'est sa richesse.
Pour bien observer, il faut s'extraire du système et regarder d'un autre point de vue que soit d'un
côté. Oui, mais on peut se déplacer aussi. Donc c'est jamais figé.
Et surtout, avoir la pensée souple aussi.
Tout à fait. Et puis surtout, oublier tout ce qu'on a appris. Parce que on n'oublie pas tout ce qu'on a appris, on veut toujours expliquer en disant mais non, le foie, il sert à telle et telle chose, il va filtrer, c'est un filtre, point final. Mais alors qu'eux, ils ne voient pas l'organe lui-même. Ils associent un organe parce qu'il a la même tonalité qu'une saison, par exemple. Mais c'est
ou
pas.
Une heure de la journée. Ou...
Voilà, ouais, effectivement, on a notre foie qui se met en marche le matin, c'est lui qui va nous mettre en dynamisme pour redémarrer la journée.
Ok. Waouh, bon, ça peut...
Pourquoi on prend l'apéro le soir, alors?
C'est le besoin de l'endormissement et de se calmer.
Ah, d'accord.
Le retour à soi.
Mais c'est vrai que ça peut perturber pour un occidental cette approche aussi cette approche-là.
Mais c'est rassurant aussi. Je trouve ça très rassurant. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça très rassurant et qui permet d'avoir une vision globale sur laquelle on peut toujours revenir sur ce fonctionnement et sur ces explications. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt rassurant que déstabilisant.
Oui.
Par contre, effectivement, il faut vraiment rentrer dedans et puis oublier toutes nos considérations scientifiques et puis balayer ce qu'on croit savoir pour avoir une nouvelle vision. C'est une autre vision des choses.
Est-ce qu'on pourrait parler aussi de d'autres bases, c'est-à-dire que là on a parlé du yin et du yang, mais donc justement sur ces courants de pensée, ce regard au monde différent, il y a aussi les symboles. Et ça, moi, ça m'a beaucoup perturbé, ce côté symbolique de l'observation.
Oui, alors ça me fait penser de suite au par rapport justement au Tao, hein, par exemple, ce qui est le plus profond et le plus interne, et qui est aussi le plus solide, c'est la matière. Hein. Si on va prendre l'image de l'eau. L'eau, si on la place dans ce mouvement circulaire, hein, que vous connaissez tous, du Tao, au nord, donc au plus yin, on va avoir les glaçons. On va avoir de la matière dure avec des molécules qui peuvent se séparer. C'est identifiable. Et ensuite, quand on va chauffer ces glaçons, ils vont devenir vapeur. Donc ils vont se propager partout. On pourra plus les voir, ils sont plus visibles et ils deviennent, ils se propagent. Voilà. Donc là, on est au plus yang. C'est l'aspect yang de l'eau. Et ensuite, cette vapeur va se concentrer, les nuages, et puis descendre des pluies. Ils appellent ça les montées des nuages, descendre des pluies, les Chinois. Et donc là, on a de nouveau une matière, l'eau. Qui va de nouveau être visible et qui va pouvoir redevenir éventuellement glaçon. Donc ça, c'est un cycle complet en observant l'eau. Chez l'être humain, on va avoir aussi une analogie, on peut faire une analogie, c'est que le plus profond et le plus interne chez l'humain, c'est l'os. C'est le plus dur. C'est sa base. Et en même temps, c'est le plus yin, donc c'est nos fondements. Donc on va effectivement retrouver toujours des images comme ça. Et c'est en observant la matière aussi qu'ils ont pu définir. Et le plus yang, ça va être le sang, tout ce qui va aller partout. Le sang, on va le retrouver dans tout le corps. Et il va vraiment se propager. Il est.
L'eau éventuellement aussi, puisque.
Oui, tout à fait, oui. Non, mais l'eau, elle a une qualité yin. Elle est vraiment yin. Oui, alors là, il ne faut pas trop m'embrouiller parce que Jean n'est pas là pour me sauver. Le yin et le yang étant.
Mais peuvent m'échapper facilement. Par rapport au symbole, j'y voyais aussi comme. J'ai entendu parler de personnes, donc d'occidentaux, qui font de la médecine chinoise et qui faisaient des rapprochements lorsqu'ils soignaient, lorsqu'ils pratiquaient. Par exemple, le sommet du crâne avec le sommet du tronc. Et que c'était. Il n'y avait pas spécialement de lien ou de connexion, enfin de lien. Mmh. Il y a des liens, mais pas pour un occidental qui voit, lorsqu'il va disséquer, il va pas voir le petit organe, enfin ce rapport entre l'un et l'autre. Et souvent, j'ai entendu parler justement de symboles où quelqu'un voyait le sommet du crâne avec le sommet du tronc, avec la base du crâne,
avec le cervical par exemple, les liaisons. Mais après là, on tombe aussi sur des notions d'embryologie, hein, dans la fabrication, on part avec trois tissus, donc forcément on va retrouver effectivement des zones dans le corps qui vont avoir une image, enfin une équivalence à d'autres endroits du corps.
Oui. Par contre, j'étais aussi un peu assez étonné, c'est que ce que j'ai appris dernièrement m'a fait frissonner. C'est que il semblerait que la médecine traditionnelle chinoise soit élaborée non pas par en disséquant des morts, mais en observant le vivant. Donc
là, je crois que c'est les deux. Voilà. Ils ont aussi disséqué apparemment.
Mais il semblerait des êtres vivants.
Ah oui, mais oui, ça. Tout à fait, oui, voilà. Disséquer des êtres vivants.
Et donc on appelle ça l'anatomie des suppliciés. Et donc ils voyaient, en disséquant le vivant, ils voyaient les rapports et les connexions dans le vivant. Et non plus peut-être comme les occidentaux qui, bon après c'est, voilà. Mais ça a été de longues études, de longues observations, de ce que j'en sais. Et donc ils ont compris aussi que rien n'était statique, que tout était perçu de manière donc dynamique, justement, donc de disséquer le vivant. Voilà. Et donc ça m'avait un petit peu Voilà.
Interpellé.
Mmh. Voilà. Mais bon, voilà. Parle-nous un petit peu d'autres bases. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Moi, j'avais relevé aussi les cinq mouvements.
On en a parlé un petit peu là. Les cinq mouvements, c'est les saisons, c'est effectivement le
qu'un organe a une prédominance à agir ou je sais pas être en action ou à telle heure de la journée. A plutôt tendance à être
disons qu'il y a des heures de charge pour chaque
organe.
Heures
de charge,
Donc effectivement sur une journée on va avoir 2 heures par organe où l'organe va être dans sa plénitude, il va vraiment être ce qui va pouvoir nous donner des indications aussi sur si quelqu'un se réveille toutes les nuits à 3h du matin, on sait que c'est l'heure de charge par exemple du foie et que peut-être qu'il y a une problématique au niveau du foie. Ça donne des indications, entre autres. Et il y a aussi des si on parle d'heures de charge, pour chaque saison correspond à un organe principalement, par exemple. Là, on est au printemps.
Ce qui est très intéressant de voir dans ces cas-là, c'est aussi l'aspect des charges qu'il y a avec le végétal, quoi. Parce que chaque végétal a un rapport avec certains organes, et du coup, quand on se réveille, par exemple, à 3 ou 4 heures du matin, on sait que c'est tel organe, et du coup, on peut soigner avec telle ou telle plante en quelques jours. Déjà, il y a
pas d'automédicalisation.
Non, bien sûr. Bien sûr,
pas de blague.
Moi, j'ai vécu ça il y a peu de temps avec mon épaule droite, par exemple. Je me réveillais toutes les nuits avec une douleur à l'épaule droite, et on m'a indiqué un traitement qui était le chardon-marie et le desmodium, et du coup en trois jours je me réveillais plus la nuit, quoi.
Oui, donc ça c'est
sur un traitement de fond ça m'a fait du bien sur le long terme, quoi.
Phytothérapie est une partie importante de la médecine traditionnelle chinoise.
C'est ça, je pense que on peut pas occulter dans l'aspect global, du coup, le règne végétal, animal et être humain et la terre-mère, on peut pas occulter.
On voit bien que vu que le printemps, l'organe qui est en plénitude au printemps, c'est le foie vésicule biliaire. On a tous les aliments qui sont dans la nature pour nous nettoyer le foie, les artichauts, les pissenlits, si on suit les saisons et si on mange les aliments ou les fruits et légumes de saison, en général, on a ce qu'il nous faut pour équilibrer et être en accord.
J'ai dû faire quelques écarts alors.
une autre réflexion aussi sur la vacuité, le vide. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est ce que j'avais relevé, c'est que le vide n'est pas absence, n'est pas privation, il n'est pas le rien, il n'est pas le néant. Mm-hmm. Le vide est potentiel à être rempli.
C'est ça.
Ça, c'est
une vacance qui.
C'est superbe.
Ils appellent ça Muchin, les Japonais. Et souvent, ils disent le cœur vide et le ventre plein. Dans le sens, non pas absence de cœur, mais au contraire, c'est une présence, tout un potentiel d'accueil. Donc le cœur vide, d'ailleurs dans le langage populaire, on parle du cœur gros, parce que quand il est chargé, qu'il est plein, alors que là, justement, être face à un individu avec le cœur vide, ça veut dire qu'on est disponible, et puis avec vide de toute intention. C'est ce vide-là, pas d'intention.
Du coup, ça se vérifie presque avec le ventre vide et le cœur plein. Du coup.
Le cœur plein, le ventre plein, ça veut dire on est suffisamment nourri. Nous, on est nourri, on a notre base, on est de nouveau dans le yin, dans ce qui va nous constituer, dans nos réserves. D'accord. On a le ventre plein, notre centre est plein, le tantien, et on a le cœur vide disponible. Mais c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir remplir notre cœur, dire on fait plein de choses. Et non, justement, on devrait plutôt se diriger vers un cœur vide.
Parce qu'on dit souvent que les pauvres ont le cœur grand.
Oui, mais c'est une autre vision. Avoir le cœur sur la main, on parle de générosité. C'est une des qualités du cœur. Mais quand on parle de Muchin, c'est vraiment ce vide dont tu parlais, Christophe, qui n'est pas. Le contraire du plein, c'est vraiment cette vacuité, tout est possible et
ce potentiel te plein, quoi.
Mais c'est un réceptacle à quelque chose. Et pareil dans la musique, une note de musique, un blanc et on a le sentiment que c'est ah oui, il y a malaise, qu'est-ce qui se passe, il y a un vide, etc. Et c'est après cette, ce blanc, ce vide, qu'il y a une pépite juste derrière. C'est la note qui va faire, nous faire titiller. Et bon, c'est un peu pareil pour tout. C'est dès qu'à un moment il y a quelque chose de vide, ce verre vide là que j'ai sur la table là, a cette, ce potentiel à accueillir des choses quand j'en aurai envie. Alors que s'il était plein d'une tisane ou d'une bière, bon ben voilà, qu'est-ce que je vais la boire dans 10 minutes, mais c'est peut-être pas ce que je voudrais. Alors
la
que
bière,
ce,
la bière,
alors
boire,
que ouais. ce vide plein, il y a un potentiel. Et ça, ça me voilà. Bref. Je sais que ça me plaisait beaucoup cette chose-là. Parle-nous du chi, du souffle. Parce que c'est quelque chose d'essentiel aussi, ça, le souffle.
Tout à fait. Le chi, ben le chi, c'est un terme souvent galvaudé. Hein, on l'utilise un peu
parce que les autres sont le souffle. Ben oui, on respire. Oui, ben qu'est-ce que je fasse entre guillemets. Mais voilà.
Mais le chi, ça, c'est l'énergie en général. Hein, donc oui, c'est d'accord. tout ce qui va. Oui. Même la matière est énergie. C'est pas parce qu'on a l'impression de voir quelque chose de dynamique en mouvement permanent. Oui, c'est en mouvement, mais une pierre, elle contient du chi aussi. Okay. Et elle va se transformer peut-être sur des millénaires et des millénaires, mais elle est aussi énergie. Donc c'est tout ce qui va consister. Parce qu'il y a terre et ciel, il y a chi au milieu. C'est le chi, c'est tout. C'est tout ce qui va se jouer grâce à la présence de l'énergie du ciel et de la terre.
L'énergie qui pourrait être aussi, enfin, je sais qu'en yoga, on parle souvent de ça, c'est que les poumons donc, lancent. Enfin, il y a une synergie, les poumons amènent l'énergie qu'ils déploient donc, vers le bas, dans le bassin. Et bon, en yoga, je sais qu'on compresse le périnée pour garder cette énergie dans le seau, on appelle ça le seau, et de garder cette énergie-là qui est en attente.
Oui, alors, ce que ça m'évoque, c'est le chi. On arrive sur Terre avec une énergie innée. Donc on va avoir un potentiel au départ hein, lié à l'héritage familial et à ce qu'on aura vécu, enfin ce que notre mère aura vécu pendant la grossesse, et après il y aura l'énergie acquise. Et donc toutes ces techniques dont tu parles, yoga, qigong, vont permettre de nourrir cette énergie vitale.
L'énergie acquise, ça fait référence aux vies antérieures un peu
ou pas du tout, non. L'acquise, c'est celle que tu vas acquérir pendant ta vie, à partir du moment de ta naissance, que tu vas avoir par la nourriture. Ouais. Le bon sommeil, par des pratiques méditatives ou autres, en prenant soin de soi, en étant le plus près des rythmes, justement, des rythmes dont on parlait tout à l'heure, hein, des rythmes naturels, et qui vont effectivement alimenter notre réservoir d'énergie, de chi.
Donc nous sommes toujours avec Camille Ducoteau et Edir. Qu'on n'a pas encore entendu parler, mais que ça va pas tarder. Non, je plaisante. Donc nous avons parlé jusqu'à présent de la pensée chinoise, de la philosophie, donc plus une philosophie de vie, et donc on a parlé du Tao, du vide, et toute cette pensée chinoise. Pour rappel, Camille propose donc des initiations de réflexologie plantaire et une conférence sur le shiatsu, donc d'une heure trente. Ça sera donc le mardi 17 avril à 20h à Mozac.
Celle de Mozac.
Ça marche, donc 31 410, et il y aura le mercredi 25 avril.
18 avril,
ça change. Là, oui, exact. Et donc le mercredi 18 avril à 20h, rue Noble à Aurignac. Là, ce sera toi.
Dans mon cabinet, oui.
Voilà,
ce sera mon
cabinet. Ok, ça marche. Et donc aussi, il y a des formations de shiatsu, donc des initiations niveau 1. Sur 4 week-ends qui vous sont proposés, donc, et cela commence donc le 21 et le 22 avril. Pour ceux, allez voir donc les coordonnées de l'Institut Shendao. Donc c'est shiatsu, alors www.shiatsutraditionnel.fr. Voilà. Donc je vous propose de continuer donc ce sujet sur le shiatsu en abordant le shiatsu. Parce que peut-être que les auditeurs ne connaissent pas ce qu'est le shiatsu.
Donc le shiatsu, c'est un terme japonais et c'est une pratique japonaise qui signifie pression avec les doigts. Donc c'est un le shiatsu a ses fondements dans la médecine traditionnelle chinoise, mais a été déclarée pratique officielle, elle a été reconnue dans les débuts des années 50 avec le besoin de faire valider les notions occidentales. Donc ça, ça a été un peu c'est sorti un peu de son côté très traditionnel pour que ce soit accessible, parce qu'il y avait les Américains au Japon et qu'il fallait le sauver quand même ce patrimoine, et donc ils l'ont un peu adapté et rendu acceptable, hein, pour que ça puisse se propager. Et après, il y a des personnes comme Nami Koshi et Masunaga qui l'ont répandu, surtout Masunaga, qui ont répandu cette pratique et en ouvrant des écoles à travers le monde. Donc c'est ce courant-là souvent qui est le plus connu. Et donc ce qui est proposé à l'école Shendao, c'est un Yin Shiatsu. Ça veut dire un Shiatsu qui va travailler sur notre profondeur, sur justement pour rééquilibrer en agissant sur plutôt sur le fond, pour qu'après effectivement l'organisme puisse être en bonne
ou rendre les choses harmonieuses.
Alors l'idée c'est de faire un, donc ça se fait sur corps habillé, sur futon ou sur table ou sur chaise. Il y a même des chaises spéciales, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, souvent c'est le massage amma qui est appelé, c'est du shiatsu assis, et se pratique sur des personnes de tout âge, et qui va, c'est un protocole qui va faire des pressions sur tous les méridiens du corps. Donc, sur 1h30 à peu près de massage shiatsu, vous allez avoir des pressions sur tous vos méridiens. Donc, c'est des pressions lentes et profondes et qui vont venir effectivement réactiver l'énergétique dans ces méridiens. Donc, l'idée, c'est de faire un travail global pour un rééquilibrage de tout ce qui est énergétique dans l'organisme, avec un but de prévention essentiellement. Et qui permet au corps de mieux s'adapter à tous les changements. C'est vraiment retrouver ce mouvement dont on parlait tout à l'heure, hein, et d'être de nouveau en harmonie avec ce cycle qui nous gère, hein, finalement, hein, et qui donc c'est retrouver cette dynamique là.
Tu parles de méridien.
Alors les méridiens d'acupuncture, ce sont des trajets, et chaque organe va avoir un trajet très précis. Les points d'acupuncture vont être une interface entre le monde extérieur et l'organe, donc l'intérieur de l'humain. Donc ça va permettre une action. À travers ces points d'acupuncture, il va y avoir un dialogue quelque part entre le monde extérieur et le. Donc dans les deux, ça veut dire que selon l'état du point qu'on va toucher, s'il est plein, s'il est vide, ça va nous donner des indications sur l'état de l'organe associé. Et on fait effectivement, en travaillant sur ces méridiens, on rééquilibre la circulation du méridien et donc le fonctionnement de l'organe. Après, c'est pas le but recherché, c'est pas le but premier du shiatsu. Le shiatsu, il va pas s'attarder sur les points précisément. Il va faire un travail sur tous les trajets, sans se focaliser sur les points d'acupuncture. Ça sera un travail thérapeutique qui se mettra en place et qui sera plus abordé, notamment dans la formation praticien, où il y aura toute une partie sur le diagnostic et sur comment interpréter les signes, les signes, l'étude de la langue, l'état de le teint, l'éclat des yeux, tous ces signes qui vont donner des indications sur les organes et.
Bien.
Voilà, mais la pratique du shiatsu elle-même, voilà, elle vise un rééquilibrage global. De la même manière que la réflexologie plantaire, qui utilise un autre système.
Réflexologie plantaire, donc, que tu es praticienne également.
Voilà, depuis bientôt 20 ans.
Très bien.
Et donc je fais des ateliers de formation. Alors là c'est plutôt un but familial, et je fais pas une formation diplômante reconnue. C'est vraiment un outil pour rendre autonomes les gens, et puis pour leur proposer un outil une utilisation dans leur quotidien, et ou de rajouter à leur pratique s'ils sont déjà dans des médecines douces. Donc la réflexologie plantaire, elle se base sur un système de zones réflexes, c'est-à-dire sous les pieds, on va avoir la projection de tous les organes, toutes les glandes, et ça va plus être comme une miniaturisation du corps humain qu'on va en retrouvant tout le corps sous la plante des pieds, qu'on retrouvera aussi sur les mains, ou en iridologie, on retrouve aussi l'état de tous les organes et une projection de tout le corps au niveau de l'iris de l'œil, ou également aussi en auriculothérapie, où on va retrouver le corps en entier avec, si on regarde une oreille, c'est comme un fœtus inversé, hein, avec la tête en bas, comme la forme d'un fœtus, et on va retrouver aussi une projection du corps sur les oreilles. Et donc tous les organes naissants ont une projection comme une miniaturisation du corps en entier, sur lesquels on peut agir, ou en tout cas faire une lecture de...
Ah, c'est passionnant.
Voilà, donc du coup, il y aura dans ce lieu à Mozac plusieurs thématiques. Et la plus importante étant le shiatsu, hein, vu qu'elle permet d'aller faire une formation professionnalisante. Et qui se déroule donc sur 3 ans environ, voilà, pour ceux qui font le parcours complet.
Très bien. Est-ce que le shiatsu, on en a fait le tour, enfin, de la pratique?
Pas complètement, parce qu'on va se rendre au Japon cet été pendant 5 semaines avec Jean, et on va aller dans la clinique à Kaigedo, qui est une clinique renommée et puis internationale, qui accueille des gens du monde entier et qui accueille également des étudiants comme nous. Et donc on sera plongé dans le cœur de Tokyo avec des praticiens qui travaillent 10 heures par jour et qui vont nous apprendre des nouveaux protocoles et qui vont nous permettre de parfaire nos connaissances, de rajouter du contenu dans nos formations également, et puis d'être plongé. Donc Jean y est déjà allé 2 fois pour le karaté notamment. Ouais. Donc là, il va aussi faire une compétition à Okinawa, et on va profiter pour ensuite aller à la clinique à Kaigedo.
Oh, super.
Voilà,
super,
donc super. On va se nourrir à la source.
Excellent, excellent. De retour pour cette 103e émission. Donc nous écoutions... Christian, tu peux nous le rappeler ?
Le beau lac de Bâle.
Le beau lac de Bâle. Excellent. C'était enjoué, c'était super. C'est super très. Écoutez...
Bah, c'est comme ça que l'émission va se terminer. Hein. C'est,
bah, il
c'est,
semblerait. C'est bien ça. Il semblerait.
Bah, alors, c'était quoi cette émission aujourd'hui alors ?
Ah ben, aujourd'hui, c'était le shiatsu. Et avoir une approche aussi sur la pensée chinoise ou la philosophie et tout ce qui va bien pour que ça soit un petit peu plus accessible à l'occidental que nous sommes, que je suis, et donc essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe
avec une culture du vivant, quoi, aussi
culture du vivant, ouais. Et c'est justement, voilà, c'est ça, c'est qu'on a une approche dynamique qui n'est pas figée, et comme tu dis, on a des gens longtemps observé, longtemps regarder la nature, regarder les comment ça se passait nous dans notre environnement, et donc on est en lien avec notre environnement. J'ai appris ce soir qu'on était en lien avec notre environnement, et c'est une médecine, moi, enfin une médecine ou même une philosophie qui me plaît énormément et ça m'attire beaucoup. Et donc merci Camille
d'avoir proposé
tout ça.